Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Alexandre Goudarzi, c'est un troisième entretien cette semaine dans cette série « Des clés pour vivre », auteur de ce livre « Guerrier de la paix ». Et bonjour Alexandre Goudarzi.
Bonjour.
Alors vous êtes heureux d'être ici à Lourdes car nous enregistrons pas très loin dans ces studios, pas très loin de ce sanctuaire et de Notre-Dame, l'Immaculée Conception. Quelle est cette histoire? C'est pas la première fois que vous venez à Lourdes.
Non, c'est pas la première fois. Ça m'est... Enfin, je suis très heureux de venir. Effectivement, c'est bien loin de chez moi. Et l'occasion s'y prétend. Ben, moi, je suis très heureux de revenir là. Je vais bien prendre le temps d'en profiter.
Alors, je crois que vous êtes venu. Alors, on reviendra. Et on a encore des choses à dire. Je crois que vous êtes venu ici à Lourdes pour venir remercier la Vierge Marie après l'Écriture, après ces 66 jours où vous avez été pris en otage. C'est ça, Alexandre?
C'est ça. En fait, l'Écriture, ça a vraiment, c'est vraiment quelque chose. Je me suis mis à l'Écriture vraiment rapidement après ma libération, donc le 26 mars 2020.
Lendemain de la fête de l'Annonciation.
Oui, exactement. Ah, oui. Exactement. Et en fait, je me suis mis tout de suite à l'écriture. Et pendant l'écriture, quand déconfinement il y eut, en fait, et qu'on a eu l'autorisation, qu'on a eu la possibilité de se déplacer, mais je suis venu effectivement ici.
C'était votre premier voyage après ce déconfinement?
Non. Alors, après ce déconfinement, c'était peut-être pas le tout premier, parce que j'avais dû aller à Sainte-Anne-d'Auray, d'où on est originaire en Bretagne. Mais je suis venu dès que possible, en fait, à Lourdes. Parce que justement, mon père spirituel franciscain dont je vous parlais, qui est à l'origine vraiment de ma conversion profonde à Cholet, est à Tarbes et vient aussi à Lourdes. Et donc, j'avais pu le rencontrer. C'était des retrouvailles parce qu'il avait eu très, très peur pour moi. J'ai pu lui présenter mon bébé. Il connaissait ma femme. Mais là, j'ai pu lui présenter notre fils. Et puis, j'ai pu remercier la Vierge Marie. Ce que je m'étais promis de faire si je sortais, en fait, du trou dans lequel j'étais enfermé en Irak. Et j'étais avec mon ami Julien Dittmar. On était quatre enfermés, Julien Dittmar, Antoine Brochon, moi-même et Tarek Moutaka, donc notre ami irakien, mais qui lui est resté en Irak. Antoine n'était pas venu avec nous, mais Julien et moi étions descendus jusqu'à Lourdes voilà, pour remercier la Vierge.
Vous parlez de ce trou dans lequel vous avez été. Vous étiez quatre, 66 jours très précisément où vous avez été pris en otage, le 20 janvier 2020 et 2 ans après, relecture, écriture. Comment vous relisez un petit peu cet épisode?
Cet endroit dans lequel on était enfermé, si vous voulez, quand c'est arrivé, tout s'est passé très vite, on ne savait pas... par qui on était enfermé, en fait, à quelle entité djihadiste on avait affaire. Très peu d'informations. On a été emmené assez loin de la capitale, après environ 1h30 de route. On a été mis dans une espèce de hangar. C'est qu'au bout de 48 heures, en fait, qu'on nous a accusés d'espionnage et les hommes se manifestaient à nous comme des gens du gouvernement. Ce dont on doutait, hein, puisqu'on s'apercevra par la suite que ce sont en fait des milices chiites, donc des milices qui travaillent pour l'Iran et qui se battent contre Daesh, mais qui sont aussi redoutables que Daesh, puisque pour faire face à Daesh, eh bien, on emploie les mêmes méthodes. Donc, ils portent pas les Occidentaux dans leur cœur. Néanmoins, la France, n'ayant pas participé à l'invasion des États-Unis en 2003 aux côtés des Américains et des Anglais, on n'a pas mauvaise presse, mais les types n'ont pas forcément de grandes connaissances historiques ou géopolitiques, etc. Donc, bref, on est ballotté d'un lieu à un autre. À chaque fois, ça change. On est au début dans une espèce de hangar. Ensuite, on passe dans une espèce de cage en tôle, j'ai envie de dire. Une espèce d'algéco de 6 mètres carrés. Ensuite...
sans fenêtre.
Sans fenêtre, sans rien. Sans jamais quoi que ce soit qui nous permette de voir à l'extérieur. Ensuite, ça sera 1 heure de route. Et puis, on est dans un sous-sol humide en ciment... à 4 mètres sous le sol, vraiment, tout est bétonné avec des caméras dans toutes les pièces, etc. Enfin, il n'y a pas beaucoup de pièces non plus, mais bref. Et ensuite, on est reballotté dans un autre endroit. Et en fait, à chaque fois qu'on est changé d'un point A à un point B, puis un point C, etc., on nous fait croire qu'on est libre. On nous fait croire que c'est une étape vers la
libération. C'est une manière de déstabiliser psychologiquement.
Puis, c'est-à-dire que vous avez toujours de la lumière. Quand l'unique fois, elle s'est éteinte et que pour la première fois, on a eu de l'obscurité dans le lieu dans lequel on était détenus, on les entend raquer leurs armes, donc charger leurs armes derrière la porte et nous demander de faire silence et de les suivre un par un. Donc on pense qu'on va être exécuté. Et c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Quand on était dans un sous-sol, 4 mètres sous le sol, on entend des gens au-dessus de nous qui se font torturer. On les entend mourir, un homme, puis une femme. ils tirent systématiquement, quel que soit le lieu dans lequel on est enfermé, ils tirent avec leurs armes sur les hyènes, en fait, qui à la tombée de la nuit rôdent autour des lieux dans lesquels on se trouve. C'est aussi le Coran chanté par un CD ou un post-cassette, peu importe, de jour comme de nuit, de soir, de matin, de ce que vous voulez, pendant une semaine non-stop. En fait, ils savent mettre en place des trucs pour vous rendre dingue. Et ils, dans ce silence, en fait, votre imagination dévaste tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'informations, vous posez des milliers de questions et vous ne savez pas ce qui va se passer. Et vous surinterprétez tout, en fait. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'interpréter, de le détailler, de le développer. Donc voilà, puis parfois ils vous mettent la pression, ils viennent et puis ils s'en prennent à vous particulièrement en mettant un sujet sur la table. Ils ne nous ont jamais violentés physiquement, ils n'ont pas été jusque-là, ils auraient pu et ça aurait été évidemment terrible, hein, mais là c'était très psychologique. Moi on venait souvent me demander des nouvelles de mon fils, voilà, comme si je pouvais savoir comment allait mon fils là où je me trouvais. Et c'était ce qui me faisait mal en fait, moi personnellement, c'est de me dire peut-être je ne reverrai jamais mon bébé. Quand j'ai été enlevé, il avait 6 mois. Et ça me travaillait énormément, en fait. Donc, ça, et puis, voilà.
Donc, culpabilité aussi.
Oui, c'est ça. Donc, après, évidemment, vous repensez à plein de choses. Vous repensez à tout ce que vous auriez dû faire, dire, etc.
Et puis, au fond, ne peut-être jamais faire ce voyage et ne pas partir, ne pas quitter son épouse et ce petit bébé de 6 mois, tout juste.
Bien sûr.
La culpabilité, vous l'avez traversée, on imagine bien.
Ouais. Ça, c'est de me dire, j'aurais dû quitter...
C'était un petit peu votre point faible, hein.
Oui, mais après, là où moi je regrettais rien, au sens où je regrettais rien, c'est que on a toujours agi dans les règles. On avait le feu vert du Quai d'Orsay, on avait le feu vert de l'ambassade de France à Bagdad, du consulat de France à Erbil. On a toujours été dans l'obéissance, en fait.
Donc il y avait un protocole que vous avez respecté jusqu'au bout, du début à la fin.
Vous n'avez pas joué au héros.
Non, du tout.
Nous, notre travail, après, on peut toujours dire, oui, mais quand même, ils allaient à Bagdad, ils se doutent bien que, un pompier, il va pas à la piscine, en fait. Il va là où il y a du feu, là où il y a le brasier, il va dans le merdier, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il va là où ça crame, quoi. Et nous, on va pas là où les chrétiens vont bien, on va là où ils sont persécutés. Donc, on va dans des endroits qui sont tendus, mais malgré tout on est prudent, on respecte les règles et on sait que dans l'obéissance, en fait, c'est aussi marcher dans les voies de Dieu, en fait, des autorités ou même donc on a fait ce qu'on devait faire et c'est aussi pour ça que on avait la conscience tranquille. Alors après, bien sûr, l'instinct, est-ce qu'on n'aurait pas dû remettre à plus tard? Est-ce que, en même temps, avec ça, on s'arrête plus, quoi? Mais bien sûr qu'on était travaillé. Moi, ma femme, je la revois quand je quittais Damas à l'aube et que j'allais prendre mon avion et qui se tenait sur le pas de la porte avec un regard triste et qui me disait « Pourquoi tu pars? Tu sais que c'est dangereux, ne va pas, ne pars pas. » Elle me l'a répété comme ça 2 fois, « Ne pars pas, ne pars pas. » Et je lui ai dit « T'inquiète. » Enfin, juste ça, quoi, un peu avec, pas une forme de nonchalance, mais... c'est comme Dédé qui va à Michelin charger les pneus dans son camion, j'en sais rien, moi je vais au boulot, quoi. Je vais au boulot et j'y vais et on se revoit dans 3 jours.
Est-ce qu'elle a très vite compris qu'il se passait quelque chose dans les heures qui ont suivi?
En général, oui, quand je me rends depuis Damas, parce que moi je vivais en Syrie, je vivais de 2015 à 2020, donc je vivais pendant 5 ans, c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme, elle est syrienne. Et donc c'est depuis Damas en Syrie que je quitte, que ce soit pour la Jordanie, l'Éthiopie, l'Arménie, le Pakistan et également donc l'Irak pour cette fois-ci. Et effectivement, quand je suis dans ces lieux-là, c'est une autre carte téléphonique. Donc il faut que je sois sous réseau Wi-Fi. C'est pas comme quand j'ai mon abonnement dans le pays. Donc c'est plus rare en fait pour moi. La communication se fait beaucoup plus rare. Mais elle sait qu'à un certain moment, normalement, je devrais être dans l'hôtel et que le soir venu, je devrais avoir la connexion et que je devrais lui donner des nouvelles. Et là, effectivement, on s'est fait enlever. Il était à peu près 4h30, 5h. Ou plutôt 4 heures, bref, et quelques heures après, en fait, elle voit qu'il y a zéro connexion, en fait, elle voit que je suis pas connecté, et elle va regarder aussi sur les lignes de mes camarades, et elle voit qu'il y a pas de connexion, et quand elle me parle, il y a pas de réponse, ni auprès de mes camarades, donc elle comprend très rapidement, en fait, que quelque chose ne va pas, quoi.
Et votre fils, hein, qui a que quelques mois, tout juste 6 mois?
Oui, c'est vrai que lui, je pense que peut-être c'est ça, je sais pas... Son petit instinct déjà développé, qui a compris quelque chose qui n'allait pas. Il buvait les émotions, il était nourri au sein, il avait que 6 mois. Et la première nuit, en fait, de mon enlèvement, il a empêché ma femme de dormir jusqu'à 5 heures du matin. Ça a été une crise. Et puis ça s'est réitéré en fait tous les jours pendant plusieurs semaines. Donc. Et il a été affecté parce que moi je le vois aujourd'hui. Hein, si je passe la porte et que je vais garer ma voiture, il a peur de me perdre en fait. Il a peur de pas me voir. Ouais.
Alexandre Goudarzi, je rappelle que vous êtes auteur de Guerrier de la paix en vue au fond de l'unité. Cette unité à laquelle nous aspirons tous. À demain à la même heure et merci.
Merci.